Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Impertinentes. Et oui, je passe le programme en hebdomadaire, tant que je peux, on verra bien. Mais puisque le confinement est prolongé, je vous propose de retrouver ce programme destiné à vous inspirer, à changer le monde, sans oublier les obstacles qui paveront notre chemin. Et oui, ce monde doit changer. Je crois que ça n'a jamais été aussi clair, ni aussi urgent, aussi évident. Alors cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours et le projet d'une journaliste autrice que j'admire énormément et qui m'a beaucoup inspirée par son caractère, son audace et sa plume. J'ai le plaisir de vous présenter Clarence Edgar-Rosa, fondatrice du magazine Gaze. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler, c'est normal car c'est nouveau. Voici le pitch qu'elle en fait.
Dans un monde où nos imaginaires ont été forgés pendant des siècles par la vision masculine, Gaze, c'est une revue qui célébrera la diversité des regards féminins. Deux fois par an, ce sera une belle édition dans laquelle on trouvera des récits intimes, des reportages à la première personne et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images faites par des meufs. Et Gaze, ce sera aussi une bourse d'études qui récompensera des jeunes photographes et autrices pour passer le relais aux filles badass de demain.
La campagne de crowdfunding en soutien au lancement du magazine Gaze est actuellement en cours. Je crois qu'on a plus que jamais besoin de regards différents sur le monde et sur nous-mêmes. Donc, si vous pouvez participer ou ne serait-ce que diffuser ce projet, n'hésitez pas à le faire. Le changement, le regard, ce sont des thèmes que nous abordons longuement à travers cet entretien, qui a donc été réalisé à distance, confinement oblige. Il y a moins de spontanéité dans l'échange, j'ai dû couper pas mal de mes rires à cause de l'écho. Ne m'en voulez pas, je vous promets de rire très fort dans le micro dès qu'on pourra à nouveau se voir dans la vie, en vrai. En attendant, je vous souhaite de passer un agréable moment en compagnie de Clarence Edgar-Rosa, au micro des Impertinentes. Clarence Edgar-Rosa, bonjour.
Mais bonjour Clémence Bodec.
Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je suis journaliste, j'écris des livres, je suis enseignante, enfin je fais plein de choses, mais toutes ces choses-là sont liées à une seule et même chose qui est les questions féministes qui sont les questions qui m'occupent le plus la tête.
Moi je crois que j'ai découvert ton existence à une époque où t'écrivais sous pseudonyme. Celui de poulet érotique, c'est toujours ton pseudo ?
Tout à fait, absolument pas. choix de pseudo tout à fait discutable. Hein. Sur le coup, ça m'a semblé être une très très bonne idée. C'était en 2010, donc je crois que je suis excusée. J'espère. Mais oui, c'est un blog que j'ai ouvert en 2010. À ce moment-là, j'étais vraiment un bébé journaliste et j'avais besoin d'une plateforme pour écrire sur les sujets que j'avais envie de choisir, de la manière dont j'avais envie de les traiter. Et donc, les blogs permettent vraiment ça. Et ce blog, il est tout à fait inactif depuis très longtemps maintenant.
Tu avais sorti un livre à un moment donné sur le vocabulaire
J'en ai sorti deux même.
Je suis pas à jour.
Non, j'en ai sorti un premier en 2016 qui s'appelle Les gros mots, qui est un abécédaire du féminisme qui va ressortir en poche d'ailleurs, je suis très contente, à la fin de l'année là. Et il s'appellera plus Les gros mots d'ailleurs, il s'appellera juste abécédaire joyeux du féminisme.
C'est fou, les temps changent.
Ouais, dingue, hein. Genre, on n'a même plus besoin de le dire. C'est même plus un gros mot, apparemment. Faux, je pense que c'est encore complètement un gros mot, mais bon. Et j'ai sorti un deuxième livre, cette année, un livre qui s'appelle Connais-toi toi-même, qui est un guide d'exploration de l'anatomie féminine.
Et en ce moment, tu es en train de lancer un nouveau projet, si je ne m'abuse. Et quand je dis en train de lancer, il y a un crowdfunding en cours pour pouvoir le soutenir. C'est le magazine Gaze. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste ?
Absolument, oui. c'est un projet que j'ai en tête depuis très longtemps et pour lequel j'attendais le bon moment. Alors, le Covid-19, c'était clairement pas le bon moment, hein, mais sinon, en dehors de ça, il me semble toujours que c'était vraiment le bon moment. C'est une revue, en fait, une belle revue qui va célébrer les regards féminins dans toute leur diversité. Et une bourse d'études en fait qui va s'adresser à des jeunes photographes et des jeunes journalistes pour leur permettre d'accéder à des études qui sont souvent coûteuses et quand elles ne le sont pas qui sont plus simples d'accès quand on n'a pas besoin de travailler à côté pour se les payer et donc l'idée c'est un peu de challenger le problème d'absence de diversité de point de vue qu'il y a dans les rédactions et que j'ai pu observer dans tous mes passages dans des journaux, que ce soit des magazines nationaux, des petits journaux indés. C'est un problème qu'on retrouve partout. Donc l'idée, c'est de mettre en avant les femmes de façon multiple et diverse et de mettre côte à côte des plumes de débutantes et puis des plumes très expérimentées, des vieilles, des jeunes, des regards très différents qui n'ont pas forcément de place en général et puis qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer. Et puis j'avais besoin qu'il y ait effectivement une concrétisation dans la vraie vie en dehors du papier. J'adore le papier, mais c'est pas tout. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai pensé ce projet avec cette bourse d'études. Voilà.
C'est intéressant, mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est complètement abstrait, cette histoire de différence de regard. Tu dis que c'est quelque chose que tu as vu dans tes différentes expériences. Est-ce que tu as des exemples ? En fait, est-ce que tu peux expliciter un peu plus la différence de ces regards ? Parce que je pense que c'est vraiment très flou pour beaucoup de monde.
Alors, tu veux parler de la différence de regard entre les hommes et les femmes ou la différence de regard, enfin la diversité de regard dans les rédactions ?
Les deux. Je pense que d'une part, la différence de regard dans les rédactions, mais aussi, je fais référence au fameux male gaze, qui est un concept qui est expliqué par de nombreuses féministes. Et je vois autour de moi beaucoup d'hommes et beaucoup de gens, des femmes aussi, qui ne voient pas forcément qu'est-ce que ça représente, tu vois.
Alors, je commence par quoi ? Je vais peut-être commencer par les rédactions. Dans les... Bon, tous les métiers possibles et imaginables ont un problème commun qui est qu'on a tous tendance, quand on est à des postes de chef, à recruter des gens qui sont exactement comme nous. Donc, dans tous les métiers, il y a un problème d'uniformité, de profil. Mais dans mon métier en particulier, le journalisme, ça se voit particulièrement. C'est vraiment très, très, très vif. Et c'est d'autant plus problématique qu'on est censé représenter le réel quand on est journaliste. On est censé représenter la société et la raconter. Et il se trouve que dans les rédacs, tout le monde se ressemble, en fait. Tout le monde se ressemble, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que si on parle de diversité ethnique, culturelle, c'est flagrant. Mais c'est flagrant à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est aussi il y a aussi une absence de diversité de point de vue, de regard, de parcours. Et je l'observe beaucoup aussi avec mes étudiantes, en fait. J'enseigne en école de journalisme, notamment à l'IEJ, où je m'occupe d'un master presse magazine. Et là-bas, je vois vraiment mes étudiantes s'auto-censurer et complètement mettre de côté leur singularité pour se conformer à ce qu'elles imaginent qu'on attend d'elles dans une rédaction en tant que journaliste. Donc, ça va du choix des sujets à la manière de les traiter jusqu'au ton qu'elles emploient. C'est-à-dire qu'elles camouflent vraiment leur singularité parce qu'elles ont l'habitude de lire une presse qui est très uniforme. Et la presse féminine, elle a particulièrement ce problème. Quasiment tous les magazines féminins ont les mêmes tics de langage, la même manière de traiter les sujets. Il n'est pas rare qu'il y ait les mêmes couvertures, avec les mêmes sujets en une, qui sont traités de la même façon, avec les mêmes mots. Enfin, c'est quand même un énorme problème. Et ça, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me gêne en tant que journaliste, mais qui me gêne beaucoup aussi en tant que lectrice.
Mais la frontière est fine, non, entre une formation et... le conformisme. Parce que tu parles des étudiants et étudiantes en école de journalisme. Bon, je partage complètement ton analyse sur cette uniformité de la presse, des réflexes, etc. Mais est-ce que c'est pas la conséquence logique de si tu vas faire des études en école de journalisme, moi j'ai fait Sciences Po, je suis formatée Sciences Po. Et quelque part, une entreprise qui recrute des Sciences Po, il sait ce qu'il recrute. En fait, j'essaie juste de tracer la frontière entre formation et conformisme.
Mais en fait, je suis totalement d'accord avec toi. Évidemment, le problème, il est multidimensionnel et il vient aussi des écoles. Mais il y a un truc qui se joue avant même les écoles, c'est qu'il y a plein de personnes qui considèrent que ces métiers sont pas pour eux. Parce qu'ils s'auto-censurent, souvent c'est des femmes, qui s'auto-censurent, qui considèrent qu'elles n'ont pas le bagage culturel pour, qu'elles n'ont pas le... oui, le parcours qui correspond au métier et qu'elles n'ont pas les contacts et effectivement, c'est tellement un métier qui fonctionne à la cooptation que c'est bien normal qu'il y ait des gens qui s'auto-censurent avant même d'envisager cette carrière. Donc pour moi, j'essaye de prendre le problème vraiment en amont. En vrai, c'est tellement un problème qui m'occupe que j'essaye de l'attraper à toutes les étapes auxquelles il se construit et il s'alimente. Mais avec cette bourse, en tout cas, l'idée, c'est d'attraper le problème au tout démarrage et d'aller chercher des profils de gens qui ne sauraient même pas aller chercher des écoles parce que se considérant comme peu adaptés ou pas le bon fit pour ces métiers-là, et de les aider à les atteindre. Mais après, en étant moi enseignante en école de journalisme, j'attrape le problème à ce deuxième échelon que tu cites là, et j'essaye effectivement de laisser à mes étudiants la possibilité de développer une individualité et une singularité, parce que pour moi c'est très important. Après, il y a tout un travail à faire aussi à l'intérieur des rédacs et chez les recruteurs. Un autre problème pour moi, c'est vraiment le fait que les recrutements dans le métier de journaliste se font quasi jamais de la manière classique. Il n'y a pas que des inconvénients à la manière classique, c'est pas juste à l'ancienne, il y a aussi plein d'aspects positifs. Un recrutement classique...
Qu'est-ce que t'appelles la manière classique ?
La manière classique, c'est une annonce, passer par les RH, rencontrer son N+1, son N+2, plutôt que juste « je te connais parce qu'on a une pote en commun, on va boire un café, t'as le job ». En fait, cette manière classique de recrutement, elle a plein d'inconvénients, mais elle a aussi l'avantage de laisser très peu de place à la cooptation et au copinage. Et souvent, c'est bien quand on essaye d'avoir des profils un peu plus divers dans une équipe, juste d'être un peu plus ouvert à des profils qui ne sont pas forcément des amis d'amis ou qui ont été recommandés par un ancien chef. Donc je trouve qu'il y a du bon aussi dans ces process de recrutement-là, et je trouve vraiment problématique que dans nos métiers, ça n'existe quasiment plus ou pas.
Pourquoi ça n'existe plus, tu penses ? C'est parce qu'il y a... Enfin, on se passe trop les postes comme ça par affinité, quelque part ? Ou parce qu'il n'y a pas assez de postes par rapport au nombre de personnes qui aspireraient ?
C'est sûr qu'il n'y a pas assez de postes par rapport au nombre de personnes qui veulent faire ce métier. Ça, c'est certain. Mais je crois que le problème, c'est que personne ne dit jamais au chef « Hey, en fait, vous avez beau être dans un milieu particulier, en fait, il y a aussi des règles à respecter. » Par exemple... Moi, j'ai été chef. On ne m'a jamais proposé de me former pour être chef. Mais c'est particulier d'être chef. C'est particulier de manager quand même. Donc, on est dans ce milieu quand même où, en fait, les règles qui permettent en général de garantir des conditions de travail qui soient les plus équitables et les plus optimales possibles, en fait, on ne les respecte pas parce que c'est juste pas important du tout. Et je trouve que c'est un énorme problème. On est dans un milieu professionnel vraiment très YOLO là-dessus. Parce que, je sais pas, culturellement, on considère qu'on est au-dessus de ça. Enfin, je comprends pas ça, en fait. Ça me dépasse. Et donc, du coup, je trouve ça intéressant de le questionner. Et même si on n'est pas d'accord, je trouve ça intéressant qu'on ait cette discussion, tu vois. J'ai pas l'impression d'entendre ce genre de choses très souvent.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de secteurs professionnels qui se considèrent des exceptions. Comme si chaque métier était l'exception à la règle à laquelle, du coup, personne ne devrait se plier. Enfin, c'est assez étrange.
Tout à fait. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les différences de point de vue entre les hommes et les femmes et du coup le female gaze, c'est, parce que je pense que c'était ça peut-être le sens de ta question au départ, mais c'est vrai que je pense encore, même si on entend beaucoup parler de male gaze et de female gaze ces derniers temps, et tant mieux, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que je pense que c'est effectivement pas clair pour tout le monde. Le male gaze, en fait, c'est un concept qui nous vient du cinéma, donc c'est pas du tout juste un regard masculin. Le male gaze, c'est vraiment le concept d'une scène dans un film où nous, en tant que spectateurs, on nous met dans le regard d'un personnage masculin qui objectifie, déshabille, regarde de façon lubrique un personnage féminin. C'est ce moment qu'on a, par exemple, quand on regarde un James Bond quand on regarde beaucoup, beaucoup de films hollywoodiens, où on a l'impression d'être un peu pervers, une personne perverse dans son canapé en regardant le personnage féminin qui a juste une paire de fesses et pas encore de prénom. Et en fait, c'est ça le male gaze. Du coup, le female gaze, c'est un concept qui a plein de facettes différentes. Par exemple, Iris Bray, qui a théorisé dans son livre Le regard féminin, elle, c'est une critique ciné, donc elle l'a théorisé du point de vue du cinéma. Et moi, mon approche, elle est légèrement différente, même si je suis en totale adhésion avec le propos d'Iris. Moi, mon postulat, c'est juste de dire, en fait, on a besoin de plus de regards féminins différents. On a besoin de montrer des récits qui soient situés. Et on a besoin que les plumes ne soient pas interchangeables et que les gens qui fassent les images ne soient pas non plus des personnes qui sont interchangeables. Pour moi, c'est très important cette histoire de récit situé. Moi, j'aime de plus en plus lire ce genre de choses et voir ce genre de choses. Ça m'intéresse presque plus, en fait, de lire un article qui est écrit par Michel, mais qui aurait pu être écrit par Laurent ou par Simone, quoi. J'ai juste besoin qu'on me dise qui parle, d'où parle cette personne et qu'est-ce que ça raconte aussi, qu'est-ce qu'elle raconte à travers cette langue qu'elle choisit, quel récit elle me fait de cet événement qu'elle me raconte, voilà. Et en fait, il se trouve que quand on est une femme, parler à la première personne, en soi, déjà, c'est quelque chose qui est éminemment politique. Et c'est cette prise de parole que je veux encourager. Donc dans Gaze, toutes les personnes qui vont écrire ou qui vont contribuer en images seront des femmes. Et quand je dis des femmes, ça veut dire des gens qui se considèrent socialement comme des femmes. Donc c'est une vision inclusive du mot femme. Et c'est hyper important pour moi que ce soit un espace dans lequel des regards différents, mais des regards féminins s'expriment. Parce qu'on en a vraiment besoin de ces espaces-là.
Alors, je vais reformuler quelque chose et tu me dis si j'ai bien compris cette différence, cette distinction entre les regards. En fait, en réalité, j'ai la sensation que pour l'instant, le monde a beaucoup été raconté par des hommes bourgeois blancs qui ont été une caste dominante à travers l'histoire, que l'histoire a été écrite et racontée par eux à travers eux, et qu'aujourd'hui, on est plutôt en train de chercher à montrer à quoi ressemble le monde par les yeux d'autres personnes, d'autres profils qui ont d'autres vécus. Et non pas que c'est non pas d'un point de vue essentialiste de être un homme blanc bourgeois, ça te confère quelque chose en particulier, mais simplement, tous ces gens ont des expériences similaires, et donc ils projettent et donnent à voir une image du monde qui se ressemble beaucoup. Et quelque part, aujourd'hui, chercher d'autres expériences, d'autres vécus, d'autres regards, ça raconte les choses différemment. Et quelque part, c'est pas forcément une façon de critiquer le regard prédominant, hein, ce male gaze, comme illégitime ou injuste. Mais simplement, on a considéré que c'était la neutralité, alors que c'est pas plus neutre que le regard d'une femme. Ou que d'une personne racisée ou demi le plus modeste, etc. Mais c'est juste que c'est... Enfin, pourquoi est-ce qu'on a décrété que c'était ça le neutre et que nous toutes et tous derrière, on serait la diversité ? Est-ce que c'est un peu ça, le concept ?
C'est tout à fait ça. Non seulement, c'est pas la norme, mais surtout, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour comprendre le monde, puisque de fait, c'est une vision uniforme. Donc oui, c'est absolument ça. En fait, en texte comme en image, on nous a raconté une histoire du monde qui était tout à fait subjective. Et c'est juste qu'on a considéré à tort que le regard de ceux qui avaient le pouvoir et qui étaient en mesure de raconter était la norme. Je te rejoins tout à fait. Donc du coup, pour faire bouger les choses aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on a besoin de récits qui soient un petit peu différents. En tout cas, qui viennent de points de vue différents. C'est tout à fait l'idée.
D'accord, donc le projet Gaze que tu portes, ça va être un magazine papier qui va sortir deux fois par an, c'est ça ?
C'est ça, ça va être un magazine, un gros beau magazine qui va sortir deux fois par an exactement, dans lequel il y aura beaucoup de photos, beaucoup de textes aussi, et qui sera accompagné chaque année d'un appel à projet pour des jeunes photographes et des jeunes journalistes. Et une fois par an, on remettra le prix à deux jeunes talents qu'on a choisi avec un jury de femmes qu'on considère comme des rôles modèles, qu'elles soient des autrices, des journalistes, des photographes, etc. On publiera leur travail dans dans le prochain numéro de Gaze. Donc là, en l'occurrence, dans le premier.
Qui sortira quand?
Je ne sais pas comment répondre à cette question, puisque en plein Covid-19, tout est un petit peu chamboulé, n'est-ce pas?
Alors, qui aurait dû sortir quand? Dans l'absolu?
Qui devrait sortir en automne. A priori, on est sur le mois d'octobre. J'ai un peu peur que tout soit mis en pause et en suspens, et que du coup, on doive sortir un peu plus tard. Mais en tout cas, ce sera à la fin de l'année.
Alors maintenant que je suis complètement convaincue par ce projet fantastique et que j'en ai compris les tenants et aboutissants grâce à tes explications d'une clarté bluffante, comment je fais pour te soutenir? Comment je fais pour être sûre que ce magazine voit le jour? Parce que si j'ai bien compris, tu n'as pas été chercher l'argent parmi les grands groupes de presse de ce monde et pour l'instant, tu n'es pas financée.
Et oui, car j'ai oublié de préciser qu'en plus, j'adore les contraintes puisque j'ai choisi de faire un journal qui sera sans pub. Oui, qui sera sans pub pour garantir une totale liberté éditoriale. Et donc, et effectivement, je ne suis pas allée chercher chez des grands groupes, donc c'est un magazine qui sera totalement indépendant. On a lancé une opération de crowdfunding sur KissKissBankBank qui est en cours en ce moment. Et là, on vient d'atteindre les 60% de l'objectif, donc c'est génial. Et on a plus de 300 personnes pour l'instant qui ont soutenu le projet, que ce soit en précommandant le premier numéro ou en faisant un don libre. Et voilà.
Très bien. Tu disais c'est un choix de faire sans pub, mais en même temps, est-ce que par rapport à ce projet de changer de regard, est-ce que la publicité, est-ce que ça aurait été compatible de toute façon d'avoir de la publicité dans un magazine pareil? Parce que le regard dans la pub, c'est là pour le coup, c'est un peu l'archétype du male gaze, on est d'accord?
Bah oui. Enfin, heureusement, ça bouge chez les publicitaires, chez les agences, les photographes. Et plus largement chez les décideurs en pub, heureusement. Mais non, évidemment, la pub, c'est un très, très gros, très, très gros terrain de male gaze rampant. et oui, ça aurait été très compliqué. Bah, disons qu'à partir du moment où je viens de Cosette, où j'ai passé 4 ans et où le pari, c'était de faire une dizaine de pages de publicité maximum par numéro. Et où surtout, l'idée, c'était de ne jamais avoir des annonceurs qui sont pas en alignement total avec les valeurs du journal. Donc, c'était très compliqué. Ça en élimine beaucoup hein, quand on est un magazine féministe. Donc, c'est vrai. Donc, après, on se retrouve avec des annonceurs culture et voilà, enfin principalement des annonceurs qui sont dans le domaine de la culture. Pour un magazine comme Cosette, c'est un choix qui est super radical, qui est très respectable, je trouve. Mais oui, effectivement, ça aurait été très compliqué. Moi, il se trouve que par ailleurs, je crois pas tellement dans l'achat d'espace comme modèle de publicité. Donc, c'est pas quelque chose vers lequel je vais courir. Donc, ça me va doublement. Et puis, je trouve ça intéressant aussi de chercher d'autres manières de faire un journal aujourd'hui qu'en ayant des espaces de publicité dans les pages. Voilà.
Eh bien, écoute, j'ai vraiment hâte de découvrir ce premier numéro.
Et merci.
J'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller te soutenir sur KissKissBankBank, non pas seulement toi à travers ce projet, mais effectivement, cette idée de bourse, de développer des talents, des regards différents dans tout ce milieu qui, je partage ton analyse assez formatée, c'est vraiment un projet auquel je crois et je te remercie d'être à l'initiative de ça, vraiment.
Merci Clémence, j'espère l'avoir bien détaillé, j'en suis pas certaine honnêtement, mais c'est tellement fourmillant, mais en tout cas oui, tout est montré et expliqué sur la page du crowdfunding et en vidéo aussi, et je pense que là pour le coup c'est assez clair.
Je mettrai évidemment tous les liens dans la description, dans les notes du podcast, comme c'est d'usage sur ces plateformes. Et en attendant que ce crowdfunding progresse, je voulais qu'on revienne sur l'adolescente que tu as été. Alors l'idée de la question qui arrive, c'est que tu choisisses un âge de l'adolescence. Donc on va compter les teens years, tu sais, entre 13 ans et 19 ans, quelque part par là. Tu choisis un âge, tu m'expliques pourquoi tu choisis cet âge-là, et tu te décris, c'était quoi ton style vestimentaire, ton caractère, dans quoi tu te projetais à l'époque. Fais-moi un peu le portrait instantané de Clarence à quel âge ?
À 15 ans, parce que quand tu me parles d'adolescence, je me vois immédiatement à 15 ans. je suis pas si différente, je pense, que, enfin, par rapport à ce que je suis aujourd'hui, mais à 15 ans, j'étais vraiment, j'étais pleine de vie et pleine d'envie, mais j'étais aussi très en colère contre le sexisme et contre les inégalités en général. Et j'étais un peu cet archétype de l'ado qui est un peu, que aujourd'hui, avec un peu de dédain quand même, je dirais, j'appellerais rebelle sans cause, mais j'avais un peu, je pense que j'étais un petit peu comme ça, c'est-à-dire que j'étais très en colère, sans avoir forcément encore les mots pour justifier et expliquer cette colère. Donc pour moi, ça, c'est assez représentatif de l'adolescence. L'adolescence, c'est vraiment un âge que j'ai, enfin, que je trouve tellement intéressant et que j'adore encore aujourd'hui observer, et je porte dessus beaucoup de tendresse. Donc quand je repense à moi à 15 ans, j'ai vraiment de la tendresse pour cette petite Clarence très rebelle. Donc à l'époque, j'écoute du rock un peu vénère, je porte des... J'ai grandi à Annecy, donc dans un coin en Rhône-Alpes où on est très skate, snowboard et compagnie. Donc je porte probablement des DC shoes un peu trop grandes avec des gros lacets et un jean un peu trop large. Et je pense que je mets toujours des t-shirts vraiment beaucoup trop courts de type crop top. Mais à l'époque, on n'avait pas encore le mot crop top. Donc, c'était juste un t-shirt trop petit. Et ouais, je suis à l'époque pleine de vie et j'ai envie de faire plein de choses. Et je pense que si on me demande ce que j'ai envie de faire comme métier, je peux répondre journaliste. Mais une fois sur deux, je dois pouvoir aussi répondre que j'ai envie de changer le monde. mais je sais pas encore trop comment, donc c'est un moment un peu un peu suspendu. Mais en tout cas, ouais, je pense que j'étais une gentille petite rebelle sans cause à l'époque.
Aujourd'hui, si tu devais revenir en arrière et que tu pouvais parler à l'adolescente que tu as été, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que t'aimerais connaître comme leçon de vie avant tout le monde pour la suite de ta carrière, de tes expériences?
Ça, c'est une question intéressante. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais un avantage sur la Clarence d'aujourd'hui, c'est que j'étais très insouciante et j'étais pas du tout angoissée. Il y a pas grand-chose qui me faisait peur à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus froussarde. Donc, je pense que je lui dirais surtout de continuer à être insouciante et à foncer, en fait. J'étais vraiment très fonceuse. Je le suis encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'ai des responsabilités. Je suis un parent. parfois, je continue à prendre des risques, mais je suis beaucoup plus mesurée. Et parfois, ça me bouffe un peu. Donc, je pense que je lui dirais de continuer à foncer et à pas trop se poser 10 milliards de questions, à suivre son instinct. Je trouve que c'est quelque chose qu'on a tendance un peu à perdre quand on grandit et j'aimerais bien qu'elle le garde un peu plus longtemps.
Quel regard tu portes aujourd'hui sur l'adolescente que t'as été ?
Honnêtement, un regard assez tendre. Je crois que j'ai l'impression qu'on n'est pas si éloignés l'une de l'autre. Et en tout cas, je la comprends bien. Donc non, je l'aime bien. Je trouve qu'elle est... J'ai un regard tendre sur elle, ouais. Je l'aime bien.
Et elle, si elle pouvait te voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle penserait de toi ?
Je pense qu'elle serait contente de voir... Je pense qu'à 15 ans, je devais trouver ça un peu fou, le concept de publier des livres qui se retrouvent à la FNAC. Je pense que ça doit être un truc qui là, rétrospectivement, pourrait la faire un peu kiffer, je pense. Donc ça, je pense qu'elle serait assez ravie. Non, je pense qu'elle serait relativement... c'est un peu curieux de dire ça, mais oui, non, je pense qu'elle pourrait être, assez rassurée, peut-être, assez contente de certaines choses, notamment sur le fait d'avoir réussi à faire le métier qu'elle voulait déjà faire à l'époque. Et ouais, d'avoir son nom sur des livres, c'est quand même cool, je pense, pour une fille de 15 ans, de se dire que ça va arriver.
Alors, la partie suivante, c'est un choix. Je te propose... Au choix, on parle de ta zone de confort comme si c'était une pièce de ta maison. Ou alors, on parle de ta vie comme si c'était un film.
Je trouve ça super dur les deux. J'ai énormément de mal à choisir. Tu vas m'aiguiller. Hein. Je pense que je vais choisir la deuxième. Parce que
le film de ta vie. Oui.
Ouais, la première, je la trouve difficile. Les deux le sont, hein, mais je vais tenter la deux.
On dirait que t'es en train de jouer à un jeu télévisé. J'hésite, j'hésite entre la 1 et la 2. Je vais prendre la deuxième, mais vous allez m'aider.
J'avoue, j'espère que le public va m'aiguiller avec ses applaudissements. C'est, non, pas du tout.
Là, pour mais 100 000 non, euros,
c'est
Clarence.
Pas, c'est pas simple, c'est pas simple, mais je vais tenter, Clémence Bodoc.
très bien. Je valide le choix numéro 2. Si ta vie était un film, quelle serait sa bande originale ? La bande originale, tu sais, en général, il y a une chanson forte, marquante, mais ça peut être tout un univers musical avec des chansons très différentes. Si tu devais composer la bande originale de ta vie, qu'est-ce qu'on mettrait ? Ce serait quoi le top track ? Ce serait quoi l'univers musical ?
Oh my God ! Alors là, j'ai la grosse pression parce que j'ai envie de te faire un truc extrêmement, extrêmement chiadé et bossé et calibré, à part que je n'ai pas préparé, puisque comme je t'ai dit, je me suis dit qu'on allait faire ça de façon spontanée. Donc, je vais devoir déjà accepter ce premier facteur. Non, je pense que le thème un peu fort, s'il doit y en avoir un, ce serait probablement un morceau d'un groupe de rock de filles, genre Bikini Kill ou L7, un truc assez un peu énervé, mais surtout déterminé, tu vois, et avec des voix de filles qui crient un peu. Ouais. Ça c'est un thème qui peut m'accompagner à peu près de mes 5 à mes 31 ans, tu vois, à peu près. En tout cas, c'est cohérent avec chaque étape. Donc ça serait le thème, je crois. Après il faudrait un peu de surf musique aussi, parce que ça m'apaise et que ça me fait du bien et que j'adore cette ambiance. Donc peut-être un petit morceau de Deep Dale un peu planant. Il faudrait qu'il y ait un peu de musique psyché aussi, mais il faudrait aussi qu'il y ait un peu de Drake. Et là, il faut peut-être que je justifie ce choix. Non, j'aime Drake. J'aime bien sa manière de parler d'amour. Et alors, pour le coup, lui, en termes de male gaze, il se pose là, puisqu'il est comme tous les mecs qui font du R&B ou du hip-hop, c'est toujours un peu problématique. Mais je peux pas m'empêcher de l'aimer quand même. C'est un peu plus fort que moi. Donc, il devrait y avoir un peu de Drake quand ça parle d'amour, quand même, je pense. Et ce film, il parlerait quand même pas mal d'amour, donc il faut du Drake. Et puis, il y aurait peut-être un peu de Nina Simone aussi. Il faut toujours un peu de Nina Simone.
Si ta vie était un film, quel serait l'élément problématique déclencheur de l'intrigue ? Qu'est-ce qui fout un pavé dans la mare de ta vie ?
C'est très dur, cette question, Clémence Bodoc.
Pour t'aider, encore une fois, car je suis co-scénariste du film de ta vie, en fait, souvent dans les biopics, on raconte pas forcément la vie de la personne de la naissance à la mort. On choisit des moments forts de son parcours, de sa vie. Donc, ton élément problématique déclencheur de l'intrigue, ça peut être quelque chose qui t'arrive à toi ou quelque chose qui arrive autour de toi et qui déclenche quelque chose, qui provoque chez toi un changement ou quelque chose.
Bah, j'ai un peu du mal, mais ça c'est toujours le cas pour moi, un peu du mal à dissocier mon métier du reste de ma vie. Donc, de fait, à distinguer aussi mon militantisme et de mon engagement féministe du reste de ma vie et puis aussi de mon métier. Donc, pour moi, le pavé dans la mare, ce serait... Enfin, ce qui me vient de façon la plus évidente, c'est ma prise de conscience des inégalités de genre et du sexisme. Parce que c'est ça qui fait qu'à un moment dans ma vie, il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi et qui va clairement diriger un peu la suite des événements. C'est ça qui va faire que j'ai envie de m'engager, c'est ça qui va faire que j'ai envie de faire mon métier de cette façon-là. Et c'est ça qui me donne envie de me lever le matin.
Et cette prise de conscience, elle est arrivée quand ? Comment ? C'est quoi le contexte ?
J'ai toujours été une personne très, très révulsée par les inégalités, quelles qu'elles soient. Mais comme je te le disais tout à l'heure, quand je parlais de la Clarence de 15 ans, parfois, souvent, sans les mots et sans, le contexte qu'il faut. Mais je pense que probablement, enfin, j'ai grandi avec ma maman, qui était une femme qui ne s'est jamais vraiment dit féministe, mais qui a toujours montré qu'elle l'était, qui était une femme qui était très autonome, qui m'a appris très jeune que l'une des choses les plus importantes, c'était dans la vie, qu'on soit une femme ou un homme, c'était d'être indépendant. Émotionnellement, financièrement, affectivement, à tous les niveaux, et qui m'a toujours montré l'exemple de ce que c'était que de vivre une vie de façon féministe. Et donc, c'est une femme qui, par ailleurs, a connu beaucoup de situations très complexes que j'ai un peu vues par ricochet. Mais qui était liée au sexisme ambiant. Donc pendant très longtemps, je ne les ai pas identifiées comme telles, mais rétrospectivement, en grandissant, ça a été le cas. Donc je pense que le moment où tout ça a commencé à prendre forme et mots dans ma tête, c'était probablement à la fin de l'adolescence, quand j'ai commencé à croiser des livres féministes qui m'ont vraiment éveillée, notamment King Kong Theory, notamment des très grands classiques qui sont toujours mes classiques de ma table de chevet, comme Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui n'avait rien à voir avec mon vécu d'adolescente, de jeune adulte, mais qui était tellement éclairant. Et je pense que c'est à ce moment-là que ça a commencé à se forger dans ma tête. Ouais.
Si ta vie était un film, quel personnage débarque juste au bon moment pour te prêter main forte ? Qui est-ce et qu'est-ce qu'il fait ? Encore une fois, c'est pas forcément une personne humaine, ça peut être un événement, quelque chose. Voilà, personnage physique ou métaphysique, comme tu veux.
Bah, je pense à plusieurs personnages. Je pense à toutes les autrices féministes qui ont croisé ma route et qui m'ont complètement transformé le cerveau et retourné le cerveau. Mais je pense aussi à mes amis qui chaque jour vraiment m'apprennent à être une meilleure personne et qui m'apprennent la sororité, quoi. Donc c'est pas vraiment une arrivée dans le film de façon tonitruante ou qui bouscule tout sur son passage. C'est beaucoup plus une transition et ça arrive de façon plus fluide, mais c'est vraiment les personnages importants. Ouais.
Si ta vie était un film, qui est le méchant de l'histoire ?
Oh, ben, ce serait un gang de méchants, je pense, là. Ce serait peut-être mon insécurité, mon syndrome de l'imposteur. tu vois, un gros gang comme ça, il pourrait y avoir d'autres méchants hein, là-dedans. Ils sont plusieurs en général, ils se connaissent bien, ils s'entendent très bien. Et puis ma peur de l'échec, à mon avis, elle pourrait être dans le gang aussi. Ouais. Ces trois-là, ils font bien le job du méchant de film.
Mais tu sais, c'est hyper intéressant parce que je dois être à une dizaine d'interviews maintenant sur ce format d'interview. Et je crois qu'à chaque fois que j'ai posé cette question, 100% des personnes interviewées ont répondu que c'était elle ou une forme d'elle, le méchant de leur propre histoire. Qu'est-ce que ça dit de nous, les meufs ? Vous avez 2 heures.
Qu'on est très lucide, peut-être ? Qu'on est dans l'introspection ? Non. Évidemment, non. Non, évidemment, non. Ouais, on est vraiment on est dans le sabotage. Hein. C'est terrible. On a du mal à accuser les autres, hein, en tout cas. T'as vu ?
Mais en plus, c'est sur ce même schéma, c'est-à-dire sur le déclencheur de l'intrigue, c'est souvent prendre conscience des inégalités, c'est quelque chose qui t'arrive ou une conscience que tu prends de ce qui arrive autour de toi. Et par contre, le méchant de l'histoire, c'est nous-mêmes. Et moi, je suis entièrement d'accord avec cette philosophie. Je pense que je répondrais à exactement la même chose, en fait, si je répondais à ces questions. Juste, qu'est-ce que ça dit de nous et de nos histoires qu'on a quand même conscience que l'obstacle est dans le monde extérieur. Et pourtant, on remet quand même l'obstacle principal en nous-mêmes. Comment est-ce qu'on se sort de ce cercle vicieux ?
Mais tu notes quand même que là-dedans, il y a aussi l'idée qu'on considère que les obstacles sont à l'intérieur de nous, mais que c'est quand même un peu à nous, malgré tout, de sauver la situation. Donc, tu vois, c'est très étrange, quoi. On se met beaucoup de pression sur le dos, mais tout en acceptant le fait que les démons sont quand même en nous, quoi. c'est raide, hein. Non, mais je pense que... Enfin, je trouve ça dingue que tu constates ça quasiment à chaque fois. Et je trouve ça très intéressant. Il faudrait que tu fasses cette relance à toutes les prochaines, en tout cas. C'est fou d'être à ce point dans le sabotage, en fait, dans l'auto-sabotage.
Dernière question de cette partie. Si ta vie était un film, après quoi tu cours? C'est quoi ton but?
Encore une question difficile, Clémence Bodoc. Elles le sont toutes. Non, c'est passionnant. Non, mais tes questions sont super. C'est juste qu'elles sont pas simples. Je pense que je cours après. Et je cours beaucoup en plus. Hein, c'est une course qui ne s'arrête pas. Mais je pense que je cours après un endroit dans ma tête dans lequel je me sentirais utile tout en n'étant pas entièrement en burn-out. C'est-à-dire, j'essaye comme je peux d'avoir un impact positif et de participer à changer les choses que j'observe et qui sont pour moi un problème, mais tout en n'étant pas suffisamment la tête dedans jour et nuit, et corps et âme, pour ne pas péter un câble. Et j'ai vraiment pas envie de faire un burn-out militant. Et je trouve que c'est très intéressant qu'on ait parlé de ça ces derniers mois, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer autour de moi depuis très très longtemps, et c'est génial qu'il y ait enfin un mot pour le dire. C'est un énorme écueil, je trouve, quand on commence à militer, ou en tout cas à vouloir être un peu proactif dans les problèmes qu'on observe autour de nous. C'est un vrai, vrai, énorme, énorme piège. Et on est vraiment trop nombreux et nombreuses à tomber dedans.
Et encore une fois, sur cette réponse que tu viens de me faire, donc tu fais partie de ces féministes, identifiées féministes sur les réseaux sociaux, sur ce domaine médiatique et sur Internet. Et ta réponse à cette dernière question n'est pas dominer le monde. Ta réponse, c'est trouver un peu de paix intérieure. Et encore une fois, je trouve que ça casse un peu un cliché de on essaie de dominer le monde et de renverser le patriarcat pour prendre sa place. Non, en fait, on recherche le bonheur, comme un peu tout le monde, je pense.
Et c'est, évidemment.
Encore une fois, qu'est-ce que ça dit de nous? Quelle guerrière ça fait de nous?
Ouais, bah je pense des guerrières réalistes en fait, qu'ont vu d'autres se casser la gueule avant nous, autour de nous, et on sait juste à quel point c'est chronophage en fait d'être engagée tout simplement. Enfin, il y a vraiment des fois à plusieurs moments de ma vie où j'ai eu des grandes phases à me dire mais est-ce que je serais pas vraiment, vraiment beaucoup plus heureuse si j'étais genre comptable ou je sais pas, il y a des trucs cool en plus, genre, je sais pas, ébéniste. Ouais, bah en fait, probablement que je serais beaucoup plus heureuse. Je le pense sincèrement. C'est-à-dire si tous ces pans de ma vie n'étaient pas aussi entremêlés et si le métier que j'ai choisi ne m'obligeait pas, slash ne me permettait pas, parce que c'est à double tranchant, d'être autant en proie au sujet qui m'occupe. C'est-à-dire que du coup, y a vraiment ce truc quand on est féministe, mais ça se rapporte à toutes les formes de militantisme, où vraiment on a le sentiment qu'une fois qu'on a ouvert les yeux sur un problème, c'est impossible de les fermer à nouveau. Ils sont ouverts, et c'est les lunettes qu'on aura sur le monde, et on ne pourra pas les enlever. Tu vois, je pense que tu vois bien ce que je veux dire. Et c'est vrai que, du coup, potentiellement, d'avoir dans ta vie, que ta vie soit construite d'une manière différente qui fait que c'est pas toujours les lunettes que t'es obligé d'utiliser pour tout faire, et ben, je pense que ça doit effectivement apporter de la quiétude. Après, j'ai quand même fait ce choix et je le referai en fait. Toutes les deux secondes, si tu me le demandes, je te dirai oui, je le referai, je rechoisirai ce métier et je choisirai encore de le faire de cette façon. Parce qu'en fait, je peux pas faire autrement, j'y arrive pas. C'est trop important pour moi d'utiliser le temps que j'ai pour essayer d'être utile.
J'admire complètement ta façon de présenter les choses. Effectivement, tu le présentes comme un choix et c'est quelque chose que j'admire parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, mais je t'inclus dedans, je ne suis pas persuadée que ce soit un choix. C'est-à-dire, c'est pour ça que je pose la question de raconter sa vie comme si c'était un film, et que je pose cette question de l'élément déclencheur, de l'intrigue, parce que c'est souvent quelque chose qui nous arrive, et que faire le choix de porter ses lunettes, de les accepter et de se rendre utile avec cette vision-là du monde, c'est arrêter de subir. Alors, je suis d'accord que ça relève du choix. Je remets juste le choix dans le contexte. Moi, c'est pas comme si t'avais eu le choix, je pense, entre être ébéniste ou élever des moutons dans la Drôme.
Alors, tout à fait, puisque j'aurais été vraiment une piètre ébéniste, hein, très clairement. Je trouve ça très classe, mais je pense que j'aurais été nulle.
Voilà. Le problème de l'élément déclencheur, c'est qu'on nous met face à cette réalité du sexisme qui est la nôtre. On nous apprend à reconnaître ces marqueurs partout. On ne voit plus que ça. Et après, le choix que t'as, c'est subir toute ta vie ça, ou ben, accepter et en faire quelque chose, et en faire peut-être carrière, effectivement, de la création, plein de possibilités. Mais je pense que le choix de départ est quand même relativement contraint, et qu'en fait, j'admire d'autant plus toutes celles qui, comme toi, assument ce choix pour en faire, jusqu'à ce projet dont on parlait à l'instant, Gaze, qui s'inscrit exactement dans cette démarche que tu viens d'expliquer en théorie. Mais là, c'est un très bon exemple pratique de ça. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour vous qui faites ça. Je pense que je devrais m'inclure dedans, parce que je pense que je fais ça aussi, mais...
C'est clair, c'est ce que j'allais dire.
C'est trop difficile.
Non, mais c'est clair. Mais tu vois, quand c'est tout à fait juste ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a une forme de... Ça s'impose complètement à soi, en fait. Et moi précisément, ce projet... c'est dur de se lancer dans un truc de cette envergure. C'est hyper dur, c'est hyper stressant, c'est un risque, c'est un vrai risque. Je prends d'autant plus un risque en montant un projet que je suis une maman, j'ai personne qui m'aide, j'ai un crédit. Enfin bref, c'est pas facile du tout de se dire hey, on va tenter un truc. Non, je mesure vraiment mon risque. Et pour autant, je le fais parce que j'ai vraiment profondément le sentiment qu'il faut que je le fasse. Parce que si je ne le fais pas, je le regretterai toujours d'abord. Et en plus, ça fait tellement longtemps que je pense qu'il faut le faire, qu'à un moment donné, mais je ne vais quand même pas m'asseoir là et, et attendre que ça n'arrive jamais. Donc je me remonte les manches et je le fais. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de... À un moment donné, quand t'es tellement convaincu de quelque chose, ça te prend par la main et ça te... Et ça drive. Et quelque part, heureusement, parce que je pense qu'il faut une part un peu d'inconscience pour se lancer.
Effectivement, je me prends parfois à rêver à un monde dans lequel on n'aurait pas eu tous ces obstacles. Et je me dis, quand je vois la puissance dont on est capable avec... tous les obstacles qu'on a affrontés au quotidien, à quoi ressemblerait le monde si on avait la même latitude d'agir, mais sans tous ces obstacles, toutes ces entraves qu'on supporte en plus. Je me dis que bien sûr qu'on dominerait le monde, évidemment.
Ça me paraît évident.
Alors, c'est une bonne transition pour la suite. Je précise juste que vu qu'on enregistre à distance, car on respecte scrupuleusement la distanciation sociale...
On est sérieuse, très sérieuse.
Je vais te poser les questions suivantes un peu en salve. Il y en a trois, ça va être trois questions à la suite. Je te les pose et comme ça, je te laisse plus le temps de toi développer de ton côté, parce que je ne sais pas ce que ça va donner le montage en mode dialogue, vu qu'on va avoir des qualités de son extrêmement disparates. Est-ce que tu es prête ?
Ok, tout à fait.
On a tous et toutes rencontré des obstacles dans la vie, c'est ce que je viens de dire, on en parlait à l'instant. Je voudrais qu'on s'arrête, si tu veux bien, sur peut-être une épreuve qui t'aurait particulièrement marqué. Alors, pourquoi cette épreuve en particulier ? Tu m'expliqueras. Comment tu as dépassé cette épreuve ? Et si c'est quelque chose avec une épreuve avec laquelle tu vis toujours, comment tu composes avec cette épreuve dans ta vie ?
En fait, depuis le début de notre échange, on est plutôt sur le registre pro. Mais le plus gros obstacle que j'ai rencontré est totalement personnel. Donc, je peux pas parler d'un autre que celui-là. C'est que j'ai plus mes parents, ce qui est quelque chose qui est finalement assez rare quand on a mon âge. J'ai 31 ans et voilà, j'ai perdu mon papa quand j'avais 20 ans et j'ai perdu ma maman il y a quelques mois. Et ça, je vis avec tous les jours. Et c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie. C'est quelque chose qui est très présent, évidemment, et qui aussi, c'est pas forcément un hasard si c'est maintenant que je me lance et que je prends un risque. Donc voilà, donc je choisis de parler de cet obstacle-là parce que c'est clairement celui qui m'accompagne le plus et surtout qui me fait complètement relativiser tous les autres auxquels je pourrais penser. Et voilà, et ma maman était une personne dont j'étais extrêmement proche. C'était vraiment la femme de ma vie. J'avais une relation très singulière avec elle. On s'aimait énormément Et là, depuis quelques mois, j'apprends à vivre sans elle. Et c'est quelque chose qui m'accompagne tout le temps.
Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie pour t'en sortir au mieux ?
En fait, on m'a un peu donné un conseil de merde, mais qui s'est avéré en fait être un très bon conseil. Quelqu'un m'a dit, il faut que t'en fasses une force, il faut que t'arrives à faire de tout ça une force et à l'utiliser. Et sur le coup, en fait, quand on te dit ça, tu te dis, mais en fait, ouais, enfin, je vois l'idée, en fait. Philosophiquement, je comprends, Michel, mais c'est impossible à mettre en œuvre là maintenant. Donc, je te remercie, mais non merci. Et en fait, maintenant, je comprends. C'est-à-dire que je trouve toujours que c'était stupide de le dire dans ce contexte à ce moment. Et c'était nul, mais le conseil est bon. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'arrive à me sentir très reconnaissante d'avoir eu les parents que j'ai eus au moment où je les ai eus. Et pourtant, Dieu sait qu'ils étaient imparfaits, enfin surtout mon père. Mais j'arrive aujourd'hui à ressentir vraiment beaucoup de reconnaissance avant de ressentir de la tristesse. Et quand je pense, là je vais parler de ma maman plutôt, mais quand je pense à ma maman aujourd'hui, et j'y pense très très souvent, j'ai vraiment des pensées très très apaisées et apaisantes à son sujet. Je pense à quel point je l'adore, à quel point c'était génial d'avoir eu une maman pareille et à quel point elle m'a forgée en tant que femme et à tout ce que je suis en train d'essayer de transmettre aussi d'elle à mon enfant aujourd'hui. Donc en fait, oui, ce conseil merdique en fait était assez, je pense que c'était un hasard, hein, mais assez basé sur quelque chose de juste.
Est-ce qu'il y a une critique ou un reproche que tu es fière d'avoir reçu ?
Bah, en fait, moi, on m'a très souvent et très tôt fait le même, qui était un peu de me dire de manière, souvent avec des mots différents, mais en tout cas toujours avec la même idée, que j'étais vraiment une grande gueule. Donc ça, on me l'a dit quand j'avais 6 ans, et on me l'a dit à 10, à 12, à 20, et on me le dit encore aujourd'hui. Et en général, on me le dit plutôt pour me remettre à ma place. Il m'est arrivé de me remettre en question avec ça, parce que je trouve que c'est toujours important quand même de... Ça, c'est encore bien un truc de meuf, mais d'arriver à voir comment on peut grandir avec un reproche qu'on nous fait. Parce que souvent, il y a des choses tout à fait pertinentes à en tirer. Et aujourd'hui, je crois qu'en fait, c'était vraiment... souvent, c'était effectivement... des comportements que j'avais qui étaient peut-être un peu excessifs par rapport au contexte, mais toujours, ils m'ont permis de me rapprocher de mes objectifs. Donc, je vois plutôt ça, effectivement, comme quelque chose de positif. Et donc, je continue à être une grande gueule et j'espère que j'en serai encore une à 90 balais.
Alors, à propos d'être une grande gueule, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as utilisé ta voix pour défendre une cause qui te tenait à cœur ? Qu'est-ce que c'était et c'était quand ?
Non, je crois que je me rappelle. Enfin, c'est pas que je crois que je me rappelle, c'est que je me rappelle. Mais je ne sais plus exactement quel âge j'avais, mais je pense que je devais peut-être avoir 7 ou 8 ans. Je me rappelle qu'une fois, à table, genre vacances en famille, on était 15 à table, j'avais remarqué pour la première fois que seules les femmes et les filles se levaient pour débarrasser et les hommes restaient à table, alors que c'était vraiment présent, c'était tout le temps comme ça, mais ça ne m'avait jamais sauté aux yeux comme là. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai vraiment vrillé dans ma tête et je me suis levée de table et j'ai fait un scandale. J'ai fait un espèce de... Je sais plus, j'ai fait une sorte de... Je me suis mise devant la porte et j'étais en mode, vous passez pas tant que vous reconnaissez pas qu'il y a un problème. Je pense que ça doit être la première fois. À mon avis, on m'a évacué de l'embrasure de la porte en 4 secondes. Mais en tout cas, sur le coup, le geste était là, quoi, tu vois.
Là, dans le film de ta vie, la voix off dirait 20 ans plus tard, elle eut raison, puisqu'on parle là de charge mentale dans la société.
Exactement. Et voilà.
On garderait le flashback dans le biopic.
Mais à l'époque, à cet âge-là, il y avait un membre de ma famille, le genre de personne, quand il parle vraiment, tout le monde l'écoute et sa parole fait un peu évangile, qui me disait tout le temps la sagesse n'attend pas le nombre des années. C'est une phrase qu'il répétait énormément, que je trouvais géniale. Et en même temps, elle n'était jamais appliquée, ni par lui, ni par aucun autre membre de la famille. C'est-à-dire que cette phrase était superbe, mais jamais aucune situation dans laquelle elle pouvait être mise en application n'était prise comme une opportunité de le faire. Donc typiquement, la gamine de 7 ans qui dit « Mais en fait, les gars, vous avez pété un câble ou quoi? Pourquoi il n'y a que les femmes qui se lèvent et les hommes qui restent à table et qui ne bougent pas leurs fesses ?» Et évidemment, je ne l'ai pas dit avec ces mots-là, je l'ai dit avec des mots d'enfant de 7 ans. C'est peut-être le moment de dire « Bah oui, la sagesse n'attend pas le nombre des années, peut-être peut-on parler de ce sujet, effectivement, tu vois ?» Et non.
Anarchiste.
J'étais hyper sale.
Clarence, quel est l'accomplissement, la victoire qui te rend la plus fière et pourquoi ?
J'ai du mal à te répondre. C'est difficile ça, très difficile. C'est bizarre d'ailleurs que ce soit le plus difficile. Hein. J'ai vraiment du mal à te répondre. Je pense que si j'essaye de répondre de façon rationnelle, je pense que la sortie de mon premier bouquin, c'était vraiment un moment où j'ai ressenti ce sentiment d'accomplissement et de réussite. Mais j'ai vraiment du mal là à dire que dans l'absolu, je ressens ça. Ce n'est pas le cas. Je me mets vraiment des attentes très 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 élevées, ce qui fait que du coup, évidemment, elles ne sont jamais atteintes. Mais du coup, j'ai énormément de mal à te dire oui, je me sens j'ai l'impression d'avoir réussi un truc. C'est dur pour moi, tu vois.
C'est intéressant. Je pense que t'es pas la seule dans ce cas-là, et j'en profite pour développer un petit peu du coup. Est-ce que tu as mis en place des signaux, des indicateurs, des jalons qui te permettent autour de toi de comprendre que, ok, là, t'as bien agi ou là, t'as vraiment réussi un truc, là, tu peux être fier de toi, vu que c'est pas quelque chose qui se passe en interne, à l'intérieur de toi. Je sais pas, que ce soit telle personne qui te félicite en particulier, que ce soit un certain nombre de ventes, d'audiences, je ne sais pas. En fait, est-ce que, vu que tu n'arrives pas à être fier de tes propres accomplissements, de tes propres victoires, est-ce que tu as des indicateurs autour de toi qui te permettent de mesurer de façon plus objective, ok, là j'ai fait du bon boulot?
Alors, il faudrait, mais il se trouve que j'ai cette tendance à chasser automatiquement, c'est-à-dire en quelques secondes, ce sentiment quand il arrive, en le diminuant, en me disant que oui, certes, c'est sympa, c'est bien, mais en même temps. Et donc, en fait, c'est aussi pour ça que j'arrive jamais à atteindre ce moment où, effectivement, il faudrait se poser 2 secondes et être un peu fière de soi quand il y a un truc de ce type qui arrive. J'ai vraiment cette tendance lourde, qui est lourde, mais à tous les niveaux. Hein. Enfin, c'est lourd, quoi, au figuré aussi. Et ça, tendance que j'ai, je pense, depuis l'adolescence, pour le coup, Clarence, 15 ans, elle était déjà pareille, à se comparer toujours à des personnes qui ont soit eu 10 ans de plus pour faire la même chose, donc du coup, bah, de fait, elles l'ont beaucoup mieux fait, c'est normal, ou alors qui ont des conditions beaucoup plus faciles et voilà. Et donc, du coup, c'est une très bonne manière de toujours penser qu'on est un peu nul. Donc, ado, j'avais déjà ce truc-là, et adulte, j'ai encore ce truc qui est très présent, qui est un peu toujours posé sur mon épaule. Et qui me fait vraiment très fortement relativiser tout sentiment d'accomplissement dès qu'il se pointe, quoi. C'est assez immédiat.
Alors tu sais quoi, je vais rajouter cette question dans mon questionnaire pour les prochaines. On va essayer de bâtir au fur et à mesure des interviews cette espèce de grille de mesure de l'accomplissement pour que des meufs comme toi puisse avoir cette grille objective de lecture de « Oui, bordel, soyez fiers de vous, c'est absolument ouf ce que vous faites. Si vous n'êtes pas capable d'être fiers de vous, on va l'être pour vous. Et on va finir par se célébrer comme les reines qu'on est. »
Non, mais c'est vraiment un énorme problème collectif, hein, pour le coup. C'est dingue. Donc, je sais pas si ça vient du fait de se mettre trop de pression, d'avoir des attentes qui sont trop élevées, ou juste d'avoir pris l'habitude, parce qu'on prend très vite des habitudes avec soi-même, l'habitude de se saboter un peu et de pas s'autoriser à penser ça. Mais c'est... moi, je pense vraiment ne pas connaître une seule femme qui n'est pas comme ça. Là, je suis en train activement de réfléchir. J'en ai pas une seule, tu vois.
Mais tu sais quoi ? C'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de découvrir dans ton futur magazine Gaze. C'est le regard qu'on porte sur la perfection et l'imperfection. Parce qu'on nous a tellement vendu un seul modèle de perfection au féminin complètement inatteignable en plus. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ça. Parce que même toute la tendance body positive qu'on a pu voir se développer sur les réseaux sociaux, etc., dans la presse féminine, c'est toujours par rapport à une norme. Donc quelque part, on a toujours validé que la norme existait. Et le body positive, on s'écarte de la norme, on grandit la parenthèse quelque part. Mais on déconstruit pas fondamentalement ce qui, à l'origine, est cette norme de la femme grande, mince, blanche, etc. Ouais. etc. Et j'ai hâte de voir ça, de réfléchir à ça, parce que je pense qu'on est beaucoup, beaucoup conditionné à travers ce cadre-là de perfection, et que c'est 0 ou 100. Soit on correspond à ça, on est parfaite, donc personne ne l'est, soit... Ben, Toutes les femmes effectivement que je connais, comme tu viens de le dire, toi aussi, on n'est pas parfaite. Donc en fait, on ne vaut rien. Ce qu'on fait, c'est pas assez bien. Ce qu'on est, c'est pas assez bien. Rien n'est jamais assez. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir voir ça.
C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que effectivement, c'est des questions qu'on se pose beaucoup en travaillant sur ce projet et qui moi me bousculent beaucoup. Quand tu veux montrer une des marottes qu'on trouve dans la presse féminine qui est absolument insupportable, c'est cette idée de la réussite et de la perfection. Et là, je parle pas forcément physique, mais réussite de parcours, tu vois, qui est vraiment totalement uniforme. C'est quand même toujours les mêmes qu'on nous montre et qu'on érige comme le cool. Et ça, je trouve ça à la fois terrible, mais en même temps très difficile à réinventer. C'est-à-dire que tous ces magazines-là essayent de réinventer le concept perpétuellement sans y arriver. Donc du coup, en se posant un peu en alternative à ça, ça pose énormément de questions. Et du coup, c'est pour ça, c'est de là aussi qu'est né le choix de mettre sur le même plan des inconnus, des personnes identifiées connues, des filles qui débutent et des femmes dont la plume est connue, des gens dont c'est le métier d'écrire et des gens dont c'est pas le métier d'écrire, puisque une bonne partie de mon travail dans Gaze va aussi être de faire écrire et d'écrire pour aboutir à des récits à la première personne, mais de la part de gens qui vont les signer, mais dont ce n'est pas le métier d'écrire. Donc ça va être beaucoup un principe de je me mets complètement en retrait et j'aide à écrire. Et du coup, c'est de là aussi qu'est venu ce principe-là. Et en termes esthétiques aussi, c'est très intéressant comme démarche, parce que du coup, je te rejoins tout à fait, les esthétiques du mouvement body positive sont aussi une nouvelle forme de norme que je trouve aussi très, très sclérosante. C'est quand même toujours les mêmes physiques, toujours les mêmes manières de les photographier, les mêmes manières de les montrer, les mêmes manières de les raconter. Et on s'enferme à nouveau dans un principe qui est très fermé là. Donc du coup, aller en alternative à ça, c'est aussi très intéressant, parce que ça pousse à réfléchir à d'autres images et d'autres imaginaires.
Et je rebondis sur ce que tu disais sur l'impasse dans laquelle s'enferment beaucoup de magazines féminins, sur toujours cette notion de la perfection. En très peu de temps, j'ai vu donc Instagram devenir le nouveau manuel de la parfaite ménagère. Tu sais, le truc qui circule beaucoup sur les années 30, là, sur les réseaux sociaux, de vous l'attendez, votre mari qui rentre du travail en préparant son scotch, deux glaçons, ses chaussons, son journal, etc. Donc on l'a beaucoup critiqué en disant « Oh putain, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, regardez ». Et ça a été remplacé par les photos d'intérieur super feng shui, minimaliste, bien rangé, avec des enfants blonds, bien coiffés, qui jouent sagement, etc. Donc, enfin, comment réinventer exactement le même concept d'injonction à comment tenir son intérieur, mais de façon cool et bien léchée pour les likes. Et très très vite, cette tendance, elle est devenue, en fait, il faut être cette parfaite ménagère hein, qui tient bien son intérieur, à des enfants évidemment, une carrière bien sûr, mais aussi le sens de l'humour, c'est-à-dire que maintenant tu mets sur Instagram, Instagram versus in real life, le contre-champ où t'as poussé tout le bordel, où t'as les enfants qui pleurent, etc. etc. Mais en fait, encore une fois, quand t'as fait tout ça, t'as toujours pas réinventé un modèle, t'es toujours en train d'ériger un même modèle de perfection et d'injonction en rajoutant juste, bah, en plus faut avoir le sens de l'humour.
Oui, oui, tout à fait. Tu rajoutes juste une couche par-dessus les autres. Mais en fait, c'est un déplacement perpétuel de la norme et de l'injonction. C'est ça qui est terrible et qui est éreintant. Et en fait, on est fatigué. Moi, je suis épuisée d'Instagram et des réseaux sociaux pour tout ça. C'est absolument épuisant. Puis en plus, tu remarques que pour chacun des réseaux sociaux qui existent, tu as des injonctions différentes. Donc en plus, c'est-à-dire que même si tu coches les cases d'un côté, tu ne les cocheras pas de l'autre. Donc c'est vraiment une course qui est terrible. Et là, d'ailleurs, c'est très intéressant de voir ce qui se passe pendant cette période de confinement dans laquelle vraiment tout se révèle de façon très étonnante, ou pas, hein, mais en tout cas de façon flagrante. Il y a encore cette injonction, on ne laisse vraiment jamais tranquille les femmes. Et là, je vois passer un nombre de mèmes hallucinants sur le fait qu'on va ressembler à rien à la fin du confinement, parce qu'on n'a plus nos coiffeurs, qu'on va avoir nos racines, qu'on va avoir les ongles pourris, qu'on sera pas épilés. Mais en fait, lâchez-nous la grappe aussi, je sais pas. C'est pas possible, même là. Mais c'est complètement dingue. Donc entre ça et ce confinement romantisé, que je trouve terrifiant à la Leïla Slimani, et puis ce confinement super fun qu'on voit aussi sur Instagram où les gens se prennent la tête à savoir quels cours de yoga ils vont pouvoir suivre sur Instagram et quel genre film ils regardent sur Netflix. Mais en fait, moi, mon quotidien n'a rien à voir avec ça. Moi, j'ai un enfant qui va pas à la crèche, en fait, donc juste je galère, voilà, c'est tout. Je mets une heure à faire rien et j'avance pas, et je marche sur des Lego toute la journée et j'ai mal. Voilà, c'est tout, tu vois. Donc, je trouve ça terrible. Ces injonctions sont de plus en plus nombreuses et elles chassent à peine la précédente quand elles arrivent.
Eh bien, merci beaucoup, Clarence. C'était passionnant. On arrive sur la toute dernière partie de l'interview, donc ça va être pile ou face. C'est assez rapide. Je vais te faire une série de propositions et je vais te demander de choisir la première ou la deuxième, A ou B. Tu peux m'expliquer J'adore. Pourquoi, mais de façon assez concise. Et t'as le droit... Alors, je sais bien qu'on est un peu toutes et toutes au milieu, n'est-ce pas ? Personne n'est que l'un ou que l'autre. On est toutes sur le spectre. Mais n'hésite pas à choisir quand même ton camp.
Très bien.
Et si jamais il y a une question qui ne te parle pas du tout, tu peux la striker, mais je préfère que tu m'expliques pourquoi.
Ok.
Prête ?
Oui.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt optimiste ou pessimiste ?
Pessimiste. C'est terrible. Je suis vraiment une personne... Je suis Daria, en fait. Daria est mon animal totem, et vraiment, c'est difficile. Je suis vraiment négative. Je lutte perpétuellement pour ne pas me laisser complètement m'effondrer dans la négativité, parce que j'ai vraiment tendance à voir le verre à moitié vide, et Daria est toujours dedans.
Du coup, cette période de pandémie globale et de crise économique généralisée, la vie plutôt bien.
Ça se passe mal, Clémence. Non, ça se passe mal. Ça se passe mal. Je suis très angoissée en ce moment.
Ah, tu vas aimer la question suivante. Prête ?
Vas-y.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt anxieuse ou détendue ?
Anxieuse. Non, je suis très anxieuse. J'ai un côté YOLO parce que je suis quelqu'un qui se marre beaucoup et je suis très joviale et je suis à fond un peu tout le temps. Et je rigole beaucoup, beaucoup dans une journée. Mais je suis aussi très anxieuse.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt nostalgique du passé ou excitée par l'inconnu de l'avenir ?
Clairement excitée par l'inconnu de l'avenir. Je suis pas du tout, c'était mieux avant.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt amatrice des foules ou des moments de solitude ?
Ah, c'est dur de choisir, là. C'est vraiment dur de choisir. J'aime beaucoup, beaucoup voir du monde. Quand je dis du monde, c'est des gens que je choisis. C'est pas la foule, en fait. J'aime les gens que je choisis. Par contre, pour survivre après ça, j'ai besoin de me recharger toute seule. Et j'ai pas beaucoup ça. Pas assez, en tout cas.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt du côté de ceux qui veulent profiter de la vie ou plutôt travailler maintenant pour profiter demain?
C'est marrant, je me suis jamais posé la question de cette façon. Jamais de la vie. J'ai énormément de mal à te répondre. Parce que, en fait, il y a un côté très... Je ne pense pas comme ça, en fait. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Mon cerveau ne marche pas comme ça.
Dans La cigale et la fourmi, t'es ni la cigale ni la fourmi.
Non, je crois que je suis vraiment ni l'un ni l'autre, là, pour le coup. Je suis genre, je sais pas, un autre animal. Désolée.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt confiante ou prudente?
Je suis prudente, mais je prends des risques quand même. Donc, je peux pas dire, je dirais pas que je suis confiante, c'est pas vrai. Je suis pas confiante. Mais par contre, je prends des risques tout en étant prudente.
En règle générale, dans la vie, tu es plutôt organisée ou bordélique?
Je suis plutôt organisée. Si mon mec entendait ça, il serait plié de rire. Non, je pense que dans ma tête, je suis plutôt organisée. Dans ma maison, c'est le bordel.
Je l'accepte. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt perfectionniste ou pragmatique?
Je suis perfectionniste.
Eh bien, merci beaucoup, Clarence. C'était passionnant. Merci pour ce temps. Merci pour cette expérience d'enregistrement
à
distance.
Merci à toi, Clémence. J'ai adoré tes questions.
Merci.
J'ai adoré cet échange. Et ça m'a fait du bien à mon confinement.
Eh bien, la même chose, vraiment, je suis ravie pour cette bulle qu'on vient de partager, toi et moi. J'invite évidemment toutes celles et ceux qui nous auront écoutés jusqu'au bout et qui auront évidemment été séduits par ta personnalité pétillante à aller te soutenir sur Kiss Kiss Bang Bang pour que le magazine Gays puisse voir le jour. Moi, en
Merci.
Tout cas, j'attends le premier numéro avec impatience.
Merci Clémence pour ton soutien.
Merci beaucoup. Salut.
Ciao.
Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que niveau son, le résultat était correct pour vous. N'hésitez pas à venir me faire un retour sur Instagram @conquérir.le.monde ou par mail à l'adresse tutoconquérirlemonde@gmail.com. Soutenez Gay si vous pouvez, s'il vous plaît. J'ai tellement envie que ce projet voit le jour. Grâce à toutes celles et ceux qui me soutenaient financièrement via Patreon, je vais pouvoir moi-même apporter une contribution au crowdfunding. C'est totalement grâce à vous, donc merci beaucoup. J'utilise une partie de cet argent pour payer les licences qui me servent à la production des podcasts et pour payer des frais quand je me déplace pour mes interviews, mais confinement oblige évidemment, je n'ai pas de frais en ce moment, donc je vais pouvoir utiliser cet argent en soutien au magazine Gays. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite, à la conquête du monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Les Impertinentes est un podcast d'interview parcours portrait réalisé par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur les flux de Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi sur Instagram à travers le compte @conquérir.le.monde ou sur mon compte @clem_bodoc. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon. C'est www.patreon.com/clembodoc. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en le partageant autour de vous, en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire positif. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci beaucoup pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à très vite.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.